ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce. Quelque chose est atroce aussi. Entre les deux, c'est la radio. Tout juste un peu de bruit pour combler le silence. Tout juste un peu de bruit et rien de plus. Tout juste un peu de bruit, n'ayez pas peur, ce sera tout à fait.
Bonsoir, bonsoir. Radio Pleine Lune, la vraie Radio Pleine Lune dans vos oreilles, parce que dans vos yeux, eh ben, c'est un peu grisâtre dehors. Peut-être, il paraît que l'été arrivera le 16 juillet. Houhou. Eh ben, en attendant, restez branchés donc sur Ondes Femmes 93.8 MHz. Tout de suite, il y aura les nouvelles des informels, suivies à 19h du quart d'heure lesbien, canicule. Et Marjolaine nous a préparé un programme pour les rendez-vous de cette semaine. Radio Pleine Lune, 93.8 MHz, tout de suite nos nouvelles. Radio Pleine Lune, nos nouvelles. Campagne internationale d'Amnesty International contre les viols et sévices sexuels que subissent les femmes à travers le monde. À l'occasion de la Journée mondiale de la femme, Amnesty International a lancé une campagne contre les viols et sévices sexuels que subissent les femmes à travers le monde de la part des membres des forces de sécurité. Parmi les pays que cite Amnesty International figure l'Inde. Dans ce pays, des milliers de personnes ont succombé aux tortures ou sont mortes en garde à vue, alors que nombre d'entre elles n'avaient jamais été inculpées du moindre délit. Les viols, les soi-disant disparitions, les exécutions extrajudiciaires sont monnaie courante et des milliers de prisonniers et de prisonnières politiques sont arbitrairement détenus sans avoir été jugés. Les enfants ne sont pas épargnés, la torture les frappe couramment, le plus souvent pour des délits de droit commun auxquels ils ont été poussés par la misère. Lorsque, par exception, la torture ou le viol ont été reconnus, les policiers qui s'en sont rendus coupables ne risquent guère qu'un transfert quand ils ne sont pas récompensés par une promotion. Au Cachemire, au Jammu et dans les États du nord-est de l'Inde, les femmes sont systématiquement violées par des membres de l'armée et des forces paramilitaires au cours d'opérations dites anti-insurrectionnelles. Dans le district de Kupwara, 23 femmes, dont des filles de 13 ans, étaient violées par des soldats les 23 à 24 février 1991. 14 femmes ont été violées lors d'une opération militaire en Assam en mai 1990, 23 femmes violées par des policiers dans le Bihar en mai 88 pour punir les villageois qui refusaient de travailler pour un entrepreneur qui leur proposait un salaire inférieur au minimum légal. À la violence physique s'ajoute la violence sociale. La victime d'un viol étant mise au ban de la société est rendue par son milieu familial et social coupable de la souillure qui lui a été imposée. Dans d'autres régions, c'est la police qui se rend coupable de viol et de meurtre. Rappelons que l'Inde a ratifié plusieurs conventions internationales destinées à protéger les droits fondamentaux de l'individu, dont le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Amnesty International lance une campagne internationale afin d'amener le gouvernement indien à ordonner des enquêtes sur les abus dénoncés et à tout mettre en œuvre pour prévenir torture, viol et mort en détention. Cette campagne a des implications directes sur la politique suisse. En effet, la Suisse considère depuis mars 1990 l'Inde comme un pays sûr, vers lequel on peut sans hésitation renvoyer les demandeurs d'asile. Amnesty International a d'ailleurs eu connaissance de, je cite, de nombreux cas de ressortissants et ressortissantes indiennes qui cherchaient refuge en Suisse et qui, après une audition superficielle d'une dizaine de minutes, se sont vus refuser le droit d'entrer dans notre pays pour y déposer une demande d'asile. Ils ont été renvoyés en Inde par le premier avion, sans que l'on se préoccupe de leur sort. Toujours concernant cette campagne d'Amnesty International, un autre pays dans le collimateur, l'Ouganda. Là, le gouvernement doit faire face à une insurrection dans le nord de l'Ouganda depuis 1986. De sérieuses violations des droits de l'homme ont eu lieu pendant des opérations de contre-insurrection, alors que des troupes vont d'un village à l'autre à la recherche de rebelles. Au début avril 1991, 11 femmes auraient été violées par des soldats, alors qu'elles étaient détenues durant 3 jours pour contrôle d'identité et interrogatoire. Au moins 3 femmes auraient été violée à Agung dans le sous-comité de Paisho, même district à la mi-avril de 91. Les insurgés ont fréquemment enlevé des femmes et des adolescentes qui ont ensuite été violées. Le 9 juillet 1990, des rebelles appartenant à l'armée chrétienne démocratique d'Ouganda enlevèrent 43 écolières à l'école du Sacré-Cœur à Gulu. L'une d'entre elles aurait été tuée devant les autres alors qu'elle tentait de s'échapper. Fin septembre 1991, toutes, sauf 3, avaient été délivrées et ou avaient réussi à s'enfuir. La plupart avaient été violées et plusieurs étaient enceintes à la suite de ces viols. Le viol par des soldats n'est pas nouveau en Ouganda. Des milliers de femmes ont été violées par des soldats appartenant à des armées des gouvernements précédents, en particulier quand Milton Obote et Tito Okello étaient au pouvoir, entre 1981 et 1985. Des avocates, des députés au Conseil national de résistance, le Parlement du pays, ont mené campagne sur le sujet du viol, y compris le viol par des soldats. Cependant, dans la grande majorité des cas où des soldats en service se sont rendus du coupable de telles violations, le gouvernement n'a pas ordonné d'enquête rapide et indépendante, ni traduit les coupables présumés en justice. Néanmoins, lors d'un incident récent dans l'est de l'Ouganda, les autorités militaires agirent rapidement pour arrêter 3 soldats accusés de viol. Ceux-ci furent exécutés. Le gouvernement affirme que de telles exécutions prouvent sa volonté de faire respecter les droits de l'homme, mais Amnesty International considère que c'est commettre une violation des droits humains pour en combattre une autre. Le développement important du sida en Ouganda augmente la gravité du viol et conduit à une situation où ce sont les adolescentes qui courent les plus grands risques de viol parce qu'on pense qu'elles ont moins de chances d'être infectées par le virus ou d'être séropositives. Le gouvernement a répondu à cette menace pour les jeunes filles en 1990 en rendant passible de mort toute relation sexuelle avec des enfants de moins de 13 ans. À l'occasion du sommet de la planète Terre à Rio, une analyse de Suzanne George sur la problématique de la dette du tiers-monde et la destruction du milieu naturel de ces mêmes pays. J'ai envie de vous lire de larges extraits donc de cet article de Suzanne George, une auteure qui a beaucoup étudié le problème de la crise des dettes, de la dette du tiers-monde et qui vient de sortir un livre excellent et très intéressant. C'est l'effet boomerang, choc en retour de la dette du tiers-monde. Alors là, c'est un article apparu dans le Monde diplomatique. La dette se paye en nature. La dette du tiers-monde et la destruction du milieu naturel sont des phénomènes étroitement imbriqués, même si la nature de leur relation a changé au cours des dernières décennies. Pendant les années 70, les pays en voie de développement s'endettèrent lourdement pour financer de grands projets qui se révélèrent être autant de cauchemars écologiques. Parmi les plus ruineux, des barrages monumentaux construits au nom de la croissance et du développement. Outre le déplacement forcé de centaines de milliers d'habitants qui, pendant des générations, avaient su préserver leur environnement, ces hydrodésastres provoquèrent la disparition sous les eaux de vastes étendues boisées, la stérilisation et la salinisation des sols, la destruction de la faune, la diffusion des maladies dont l'eau est le vecteur. Et ce, sans même fournir la quantité prévue d'électricité, tant leur infrastructure s'envasèrent rapidement. Une industrialisation mal conçue, fondée sur des usines clés en main et des technologies souvent obsolètes, apporte peu de développement authentique et beaucoup de pollution. Les crédits étrangers fertilisèrent une agriculture du type révolution verte, nécessitant de fortes doses de produits chimiques, entraînant la disparition de végétaux locaux au profit de variétés de semences importées. Les centrales nucléaires à la sécurité non assurée proliférèrent. Quelle qu'ait été l'utilisation des emprunts donc donnés par les pays industrialisés, il faut maintenant les rembourser. Et une fois encore, c'est la nature qui paye le prix fort. Les chiffres de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, montrent que les débiteurs remboursent actuellement leurs prêts au rythme de plus de 3 milliards de dollars par semaine. Depuis que la crise de la dette a éclaté en 82, chaque mois et pendant 108 mois, l'Amérique latine a envoyé 4 milliards de dollars au nord. Même l'Afrique subsaharienne, enfoncée dans la boue et la pauvreté, dégage tant bien que mal 1 milliard de dollars par mois pour rembourser ses emprunts. La plupart des pays débiteurs dépendent massivement des recettes d'exportation pour assurer le service de leurs dettes. Ils n'ont pas vraiment d'autre choix et doivent appliquer les programmes d'ajustement structurel élaborés par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Les gouvernements sont invités à investir toutes leurs ressources dans des productions destinées à l'exportation et dissuadés de veiller aux besoins de leur peuple aussi longtemps que ceux des étrangers à devises fortes n'ont pas été satisfaits. Si les recettes d'exportation permettaient de rembourser la dette tout en laissant une marge de manœuvre pour d'autres projets, il n'y aurait rien à redire. Malheureusement, le service de la dette dévore des proportions toujours plus élevées des réserves de change des pays débiteurs. Pire, la Banque mondiale et le FMI donnent simultanément les mêmes avis à des douzaines de débiteurs qui s'affrontent ainsi pour vendre une gamme étroite de produits sur des marchés limités et en contraction. Le résultat prévisible de cette concurrence sauvage est la baisse des cours pour tout le monde et des efforts de plus en plus désespérés pour exporter dans le vain espoir d'arrêter la spirale descendante. Une croissance tirée par l'exportation peut signifier une mort tirée par l'exportation pour l'environnement. Les ressources sont prélevées plus qu'elles ne sont gérées. Les petits exploitants sont expulsés de leurs terres pour faire place aux cultures d'exportation et ils s'efforcent de cultiver des terres en pente, vite détruites par l'érosion, ou des sols forestiers fragiles. Dans le même temps, les cultures d'exportation nécessitent de fortes quantités de pesticides et épuisent les sols. Alors que les pays se ruinent pour exporter, la Banque mondiale et le FMI les exhortent à pratiquer des coupes claires dans les dépenses publiques. Les budgets de protection de l'environnement sont immanquablement les premiers sacrifiés. La conséquence écologique la plus grave de la dette est peut-être le déboisement massif qu'elle a encouragé. Les arbres sont abattus de la manière la plus irresponsable pour fabriquer des meubles, des encadrements de fenêtres ou des simples baguettes qu'on jette après dans la poubelle. Parfois, les forêts sont simplement nivelées et transformées en pâturage pour bovins dont la viande se retrouve dans les restaurants fast-food du Nord. Les pays créanciers devraient totalement réviser leur stratégie à l'égard de la dette, sinon par solidarité, du moins par intérêt bien compris. L'impact du déboisement est global et il ne saurait de manière commode être confiné au Sud. Il est directement responsable du cinquième des émissions de gaz contribuant à l'effet de serre. Nous ne pouvons pas découper la planète en deux. La destruction de l'environnement est un des boomerangs de la dette qui, tôt ou tard, nous frappera tous. États-Unis, au cours de leur assemblée plénière, les évêques catholiques ont désaccord sur la situation des femmes dans l'Église et la société. À l'issue d'une assemblée plénière, les 285 évêques catholiques des États-Unis ont constaté leur désaccord sur un projet de document touchant la situation de la femme dans la société et dans l'Église. Ce document de la hiérarchie catholique sur les femmes était en préparation depuis 9 ans. Mais pour qu'il soit adopté à la prochaine assemblée de novembre, à la majorité des 2/3, il faudrait un miracle. Oserons-nous faire comme si nous n'avions rien à dire aux femmes de ce pays, ajoute Monseigneur Imèche. Le sentiment domine pourtant que ce texte est d'ores et déjà enterré. Confirmant une certaine image libérale, les évêques américains avaient publié en 83 puis en 86 deux documents très critiques sur l'armement nucléaire et sur la situation économique des États-Unis. Mais la rédaction du texte sur la situation de la femme dans la société et dans l'Église est beaucoup plus laborieuse, compte tenu notamment des interventions du Vatican. Le projet dénonce, comme je cite, un mal moral et social, toute attitude sexiste. Mais il condamne l'avortement, la contraception artificielle et, contrairement aux premières rédactions, il ferme la porte à toute perspective d'ordination des femmes. Au cours de l'assemblée plénière, des évêques progressistes ont exprimé leur déception, soulignant que l'Église se rendait elle-même coupable de sexisme. Mais ils ont été battus par les conservateurs qui ont déclaré que, je cite, « la théologie féministe radicale est un péché ». Le renouvellement de l'épiscopat américain sous Jean-Paul II inquiète de plus en plus les milieux catholiques progressistes. Nos évêques sont nommés presque uniquement en fonction de leur opinion sur les questions de la contraception et de l'avortement, nous dit une rédactrice en chef de une revue de l'Église. Le fossé ne cesse ainsi de s'élargir entre une hiérarchie catholique autrefois plus audacieuse et l'opinion, commandée par 7 organisations féminines réalisées en mai auprès de 800 personnes et publiées à l'occasion de cette assemblée plénière, des évêques, un sondage vient de révéler que plus des 2/3 des catholiques américains, 67%, seraient aujourd'hui favorables à l'ordination des femmes au sacerdoce, contre 47% en 85. De même, 70% approuveraient l'ordination d'hommes mariés, contre 58% il y a 10 ans. Seuls 13% des catholiques interrogés sont d'accord avec leur épiscopat pour dire qu'en aucun cas l'avortement ne doit être autorisé, alors que 41% estiment possible en certaines circonstances. En France, un texte gouvernemental propose une distribution sélective des capotes pour des ados en difficulté. Les préservatifs ne plaisaient pas au directeur du centre de Tréméac, un établissement pour caractériels, cas sociaux et petites délinquantes. Si bien qu'après l'interdiction de leur achat et de leur distribution dans le centre en février 90, les éducateurs se sont mobilisés et ont même interpellé le député du coin. Le journal officiel vient à peine de publier la réponse du ministre de la Santé. Pour les mineurs, en centre éducatif, l'octroi de capotes, je cite, « ne peut être décidé qu'à titre individuel dans le cadre d'un projet éducatif personnalisé ». Ce texte n'a pas valeur de loi ni d'une circulaire ministérielle, mais il peut servir de référence. C'est une réponse ambiguë, frileuse, qui nie à la fois les efforts de promotion des contraceptifs et la nécessité pour ces jeunes de construire leur sexualité avec des préservatifs, commentent les éducateurs. Pour poursuivre, cela revient à considérer les adolescents et les adolescentes comme les futurs contaminés des années à venir, alors que c'est justement sur cette génération que la prévention peut gagner. Tous les jeunes qui nous contactent, continuent ces éducateurs, ne veulent pas attendre que l'État bouge. Ils souhaitent être les acteurs de leurs actions de prévention. Il ne faut pas oublier que la première peur des ados n'est pas le sida, mais que c'est bel et bien la sexualité et l'amour. Une Palestinienne assassinée. Une Palestinienne a été assassinée par d'autres Palestiniens dans le camp de réfugiés situé dans la bande de Gaza occupée. Fatma Al-Masri, 50 ans, mère de 5 enfants, a été tuée par balle selon la méthode utilisée pour tuer des personnes soupçonnées de collaboration avec Israël. Nouvelle du canton de Vaud, l'allocation de maternité introduite. Avec 6 mois de retard en raison de ses difficultés financières, l'État de Vaud versera, à dater du 1er juillet prochain, une allocation de maternité aux familles à revenus modestes. L'allocation de base sera de 200 francs par mois pendant 6 mois. Une allocation complémentaire viendra compenser une éventuelle perte de gain si la mère, en raison de la maternité, a dû réduire ou interrompre son activité lucrative. Sont considérées comme familles à revenus modestes celles dont le gain est inférieur à 2000 francs par mois pour un couple avec un enfant ou à 1500 francs pour une personne seule avec un enfant. Toujours à Lausanne, un lieu pour les enfants de parents déchirés. Pour qu'ils ne fassent pas trop les frais d'une séparation houleuse de leurs parents, les enfants auront leur point de rencontre à Lausanne. Après d'autres localités comme Berne, Saint-Gall ou Genève récemment, le chef-lieu vaudois aura un lieu pour les gosses de parents divorcés ou séparés. Partant du principe de base selon lequel l'enfant a le droit de garder des contacts avec ses deux parents au-delà de leur séparation, la nouvelle association Point Rencontre doit donc permettre à ses enfants de retrouver le parent avec lequel ils ne vivent pas, et cela dans un lieu d'accueil neutre et temporaire. Il pourrait être aussi le lieu de passation de l'enfant entre les deux parents. Ville de Genève, deuxième pilier égalité, les conseillers municipaux socialistes Véronique Pureau, Marco Tigler ont déposé une motion invitant le conseil administratif à faire un pas de plus vers l'égalité entre femmes et hommes dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Les socialistes proposent de modifier les statuts de la Caisse du personnel de la ville, la CAP, de manière à permettre un partage équitable entre conjoints en cas de divorce ou de réalisation des avoirs de vieillesse. à Genève, une femme à la tête de l'Église protestante, le consistoire de l'Église nationale protestante de Genève, a élu Nicole Facio présidente de l'Église nationale protestante de Genève. C'était les nouvelles sur Radio Pleine Lune 93.8 MHz. Je vous rappelle qu'après la musique, on va écouter à 19h, il y aura Canicule, le quart d'heure lesbien, suivi par le Memento de Marjolaine.
Voglio uno scandalo, voglio uno scandalo. L'ultimo scandalo, voglio uno scandalo io con te e tutti i figli tuoi. Show the